Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Irem et aujourd'hui, pour vous parler de SmackDown, je suis accompagné par l'admirable Amiral. Salut Amiral.
Salut Giscal, Giscal IRM, toi je pense à Giscal qui est pas là parce que je remplace Giscal qui est en vacances. Donc voilà, j'ai mis mon t-shirt bleu aujourd'hui pour essayer de faire ça dans les formes et j'espère que du coup je serai à la hauteur de la tâche.
Oui, alors si tu parles de Giscal comme étant une tâche, ce n'est pas très sympa. J'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode parce que là il est parti en vacances, faudrait pas lui saloper ses vacances. Il serait capable de mettre une mauvaise note sur TripAdvisor à cause de toi. Donc ouais. Attention à ce que nous disons.
Bah, je risque de saloper la note du show en tout cas, puisque je pense être moins magnanime que Giscal sur différentes choses. On verra ça du coup dans le mot de la fin, bien sûr.
Eh ben, avant de parler de la fin, parlons du début. Et le début, c'est le menu. Et oui, au menu, le US Open Challenge ouvre officiellement ses portes. Kevin Owens porte les rayures comme Obélix. Bobby Roode est glorieusement gentil. Tamina crush. La Fashion Police suit les flèches de la saison 2 et Shinsuke Nakamura devrait se méfier des vipères. C'est Jinder Mahal hein, qui ouvre le bal, il nous invite pardon, à bien comprendre que c'est lui, il est bien champion malgré tout le dédain dont il fait l'objet. Vous n'aurez pas ma haine, hein, hashtag. Et quelqu'un doit payer. Et oui, la semaine dernière, rappelez-vous, c'était un petit peu le bordel avec Nakamura et ce sont les frangins, les Singh Brothers qui demandent pardon. Ils veulent demander pardon au Maharaja, donc ils commencent un peu à faire un numéro assez... c'était le du grand acting, là. Hein. C'était l'acteur studio.
Fabuleux. Remarque, c'était correct, c'était niveau Bollywood. Hein.
Ah voilà. Oui, voilà. Tout dans la surenchère, on les voit, ils sont aux larmes et voilà, ils veulent vraiment demander pardon Maharaja. C'est notre faute si Shinsuke Nakamura t'a touché. Hein. On n'est pas digne d'être de toi, etc. Et pour leur échec donc de la semaine passée, de tous les gens qu'ils ont déçus, alors là ils font la liste, il y a maman, papa, les cousins, visiblement tout le monde a été déçu, hein, plus d'un milliard de personnes.
Tout le continent d'Asie, hein, ils le disent. Hein. C'est même plus le peuple d'Inde, c'est tout le continent asiatique.
Effectivement, bon, bah, voilà, tout le monde se sent impliqué et du coup, bah, ils implorent et ils demandent à ce que Jinder les autorise, hein, c'est vraiment les autorise à baiser ses pieds. Alors à ce moment-là, ils s'apprêtent, hein, ils se prosternent et ils s'apprêtent à poser leurs lèvres délicates sur les bottes du champion. Ils sont interrompus par les violons de Nakamura qui retentissent. Nakamura qui file tout droit, les deux Zigoto qui se mettent en travers du chemin, ils les poussent comme ça juste pour passer, laissez-moi passer. Donc ils feraient pas non plus des très bons vigiles. Ça se transforme un peu en baston général. La musique de Randy Orton retentit à son tour. Et Rousseff est juste derrière lui. Donc tout le monde était un peu à la queue leu-leu. Ça se bastonne. Et à la fin, ce sont les méchants qui sont debout. Jinder et Rousseff. On nous annonce. D'ailleurs, je crois que c'était même avant qu'il y ait la bataille générale. Ce qui était peut-être un peu dommage. Parce que c'est pas fait de façon très organique. On nous annonce un tag team en main event. Entre donc Jinder et Rousseff versus Nakamura et Randy Orton. On se garde le match pour la fin de l'épisode, si tu veux bien, rapidement, tes impressions sur ce segment d'ouverture.
Bah, comme tu le disais, effectivement, les Singh Brothers, c'était pathétique. leur espèce de demande d'excuse, vraiment, c'était, comme je disais, du niveau d'un film de série B et Bollywood. Donc ouais, après, bon, bah, ça poursuit le truc logique. Effectivement, on se pose la question, quelle est la prochaine étape pour le titre de la WWE? Visiblement, ils ont pas terminé entre cette rivalité Mal Nakamura. Mettre dans ça Orton et Rousseff, pourquoi pas? Je suis content que Rousseff Orton soit pas juste terminé avec ce micro-match à SummerSlam, parce que c'était vraiment pas digne du Bulgare. Après, le fait que ce soit annoncé au début de show qu'il va y avoir ce match tag team et pas après ce segment, ouais, c'est pas très organique, mais en même temps, on a tellement suffisamment râlé qu'à chaque fois, il y a des engueulades comme ça, qu'il y a un GM qui débarque, qui passe « Hey, playa, je sais ce qu'on va faire, un tag team match !»
Ouais, j'avais rien prévu de toute façon.
Voilà. J'avais pas prévu de main event, donc du coup, non, voilà. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, on n'est pas habitué à ça, mais bon, c'est pas plus con que l'autre possibilité. Donc bon, un segment d'intro mi-fig, mi-raisin, rien de sensace, rien de nouveau. Pourquoi pas, quoi. Bon. Commencer comme
moi,
ça, c'est
pas
la manière la plus détonnante, mais...
Ouais. Moi, ça m'a bien fait rire, hein, les deux Singh Brothers. Quitte à aller dans le kitsch, autant y aller jusqu'au bout.
Ouais.
On... va backstage, si tu veux bien. J'essaie de regrouper un peu donc ce sera pas forcément dans l'ordre chronologique. Backstage, on a le Baron qui se fait interviewer par René Young, qui lui demande comment ça se passe la vie sans mallette. Alors le Baron répond qu'il en a marre, hein, qu'on lui demande d'ailleurs où est sa mallette. Apparemment, tous les gens qui croisent lui demandent mais où est ta mallette, où est ta mallette, Baron, etc. Donc il est visiblement énervé, mais il a un plan quand même en tête. Il nous rappelle qu'il a passé un deal. Visiblement, c'est surtout lui qui l'a passé, le deal, hein, avec AJ Styles. Et que ce soir, il va cash in l'Open Challenge, le US Open Challenge. Donc, il a l'air décidé à aller affronter AJ Styles pour lui prendre la ceinture. Justement, l'US Open Challenge, c'est la suite. AJ Styles est heureux, hein, d'annoncer la réouverture de l'US Open Challenge sans la participation de Kevin Owens, hein, qui est définitivement banni de tout title shot tant que AJ Styles aura la ceinture. C'était Shane McMahon qui l'avait déclaré la semaine dernière. On attend. Qui va être le premier contender, qui va être le premier à répondre à l'appel? Et c'est la musique de Ty Dillinger, et oui, le Perfect Ten qui retentit. Rapidement, t'avais espéré quelqu'un en particulier, l'amiral?
Non, bah je pense comme tout le monde, et c'était ce qu'il nous était raconté, que ça allait être Baron Corbin qui allait débarquer à la seconde près dès que AJ Styles allait ouvrir le challenge. Donc du coup, j'étais agréablement surpris de voir que c'était pas Corbin, encore plus de voir que c'était Ty Dillinger. Ça m'a rassuré, je me dis tiens, ils n'ont pas oublié Ty Dillinger dans un placard d'une arène il y a un mois et demi. Il est toujours avec
les gars, venez me chercher.
C'est ça. Bon, c'est pas drôle votre jeu là. Donc non, j'étais agréablement surpris de voir que c'est Ty Dillinger. Je trouvais ça plutôt cool de revoir le Perfect Ten. Hein. En plus, voilà, qui fait quelque chose un peu de ballsy, qui se fait pas un match à la con, non, qui ouais, essaie d'aller prendre une ceinture contre AJ Styles. Donc non,
ouais,
ça
justement, ouais, on va en parler du match. Ouais. Comme tu le dis, il a été à fond. Pourquoi? Parce que justement, le Baron qui voit ça là, alors qu'il se dirigeait visiblement dans la gorilla position pour aller répondre à l'appel de AJ Styles, il s'est fait donc couper, donc doublé dans la file, et le Baron n'est pas content, donc il s'attaque à Dillinger, mais Dillinger prend le dessus suffisamment en tout cas pour aller demander rapidement à l'arbitre de sonner la cloche. Alors, c'était très drôle, hein, parce que il savait qu'il avait très peu de temps avant que le Baron n'intervienne dans le match. Donc le match a lieu. Jestaz est au début évidemment un petit peu pris de court par la vitesse et la fougue, hein, de Ty Dillinger, mais au final, au bout de 2 minutes, 3 minutes peut-être à peine, il se fait prendre donc la prise de soumission du phénoménal One, et c'est bien donc AJ Styles qui remporte ce premier Open Challenge, en tout cas qui retains malgré la fougue, hein, du Canadien. Ringside, donc on a le Baron, hein, qui est totalement énervé, qui hurle sa colère, et il promet au champion tous les malheurs du monde. Il n'est vraiment, vraiment pas content. Il gueule après AJ Styles, il gueule après les commentateurs, il gueule après le public, après Ty Dillinger. Il gueule beaucoup, ce Baron. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réouverture d'Open Challenge et du match?
Alors le match, j'ai trouvé malheureusement trop court.
Ouais, mais il y avait une histoire qui est justement...
C'est ça, voilà. Non, le tout ce qui était avant, donc du fait que ce soit Ty Dillinger, comme on le disait juste précédemment, qui arrive, pas le Baron, qui est un contest entre les deux, Baron qui dit non attends c'est mon spot, et Ty Dillinger qui se laisse pas faire. J'avais peur de ça, que Ty Dillinger se fasse malmener ringside par le Baron et ne riposte pas, et c'est Baron finalement qui monte sur ring. Finalement non, c'était l'inverse, donc ça c'était encore une fois très positif, je trouve, pour Ty Dillinger. Le match est très court, trop court malheureusement. Par contre, effectivement, Ty Dillinger a été à fond pendant ces quelques brèves minutes. Il y a qu'à voir la façon avec laquelle il a vendu le calf killer, hein, donc la prise de soumission d'AJ Styles. Je trouve qu'il était au top. Dillinger, il a vraiment voilà, en peu de temps, il a montré beaucoup de choses, je trouve, donc il mérite d'avoir plus de place. Après, voilà, logique, le baron derrière Kira qui essaie d'attaquer Teddy Ninger et Jay Styles qui le renvoie donc dans sa niche, le loup, le lone wolf.
Un loup domestique.
Ouais, un loup domestiqué. Donc, bon, bah, c'est bien, il continue l'histoire qu'ils avaient mis en place la semaine dernière avec ce deal entre Owens et Corbin et après entre Styles et Corbin. Voilà, c'est assez logique en mettant dedans un Teddy Ninger. J'espère que c'était pas le coup d'un soir pour Teddy Ninger et que, bah, il va rester un peu dans gravité autour de cette histoire pour pouvoir être un peu plus introduit au public du main roster parce que pour l'instant, il n'a pas été bien servi en termes de booking. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça.
Ouais, alors je pense qu'il faut pas trop se faire d'illusions ou d'espoir trop élevés pour l'ami du Perfect Ten. Ce serait cool effectivement que invite, mais je pense qu'on va peut-être et ça peut être tout aussi drôle plutôt avoir. Moi, j'aimerais beaucoup que le Baron se fasse vraiment shipper la place pendant plusieurs semaines de suite. À chaque fois, je sais pas, genre il est aux toilettes au moment où l'Open Challenge retentit.
Ouais. ça peut être comique, mais là du coup, ils auraient l'occasion de monter un peu Dillinger et c'est vrai que ben SmackDown quand même il manque de face. J'ai l'impression, en tout cas en singles match, hein, pas en tag team.
On en reparlera. Tu sais quoi, on en reparlera pas très longtemps hein, plus tard, effectivement, de ces histoires de nombre de face.
Ouais.
Donc effectivement, bah, l'amiral qui espère revoir Tag Dillinger au moins un petit peu la semaine prochaine. On enchaîne justement avec l'ancien rival de AJ Styles. Ce n'est pas Aiden English qui lui pousse la chansonnette, hein, le Beethoven du baryton, etc.
Le Shakespeare de la chanson.
Ah oui, il est plutôt bien là, Aiden English, mais il est interrompu justement par Kevin Owens, hein, qui se rase plus, il a plus son costard, hein, il est dépité, il est pas content. D'ailleurs, c'est très drôle, hein, le Canadien qui convient assez, de façon assez malicieuse, qui demande donc à Aiden English de sauver le temps de tout le monde parce que visiblement il lui dit, écoute mec, t'as une superbe voix, c'est super ce que tu fais, mais le public te mérite pas, c'est un public d'un culte débile, plutôt que de faire ça, je te propose de t'éclipser, de me laisser moi faire des choses un peu plus importantes. Alors, il nous rappelle hein, justement les événements tragiques de la semaine dernière, après qu'Aiden English soit gentiment exécuté. Il faut se rendre à l'évidence, hein, dit-il, SmackDown n'est pas à la hauteur de Raw, ce n'est pas la land of opportunities qu'on vous vend depuis le début, on vous ment, on vous spolie. Non, tout ça, c'est le petit terrain de jeu de Shane McMahon. Ça n'arriverait pas hein, s'il y avait la belle Stéphanie, évidemment, ce serait autre chose. Et là, la musique retentit, je t'avoue, sur le coup, mon cerveau a cru que c'était le theme song de Stéphanie McMahon.
Ah, ok.
Non, c'était bien
Money, Money, Money. The money.
Après, ouais, c'est un theme song qui lui irait bien aussi à Stéphanie. Hein. C'est Shane. Hein. Shane, le fossoyeur de l'histoire, le censureur, celui qui réécrit un peu l'histoire, parce qu'il nous résume un peu à sa manière ce qui s'est passé la semaine dernière avec cette histoire du baron qui avait été arbitre. Puis il demande à Aiden English, qui est sur le toujours sur le côté, de revenir sur le ring parce qu'il a un match. Et donc Kevin Owens va devoir se contenter d'être au commentaire. Bon, c'est ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et l'autre cauchemar de Kevin Owens arrive à ce moment-là, puisque l'opposant, l'adversaire d'Aiden English, pardon, pour ce soir, n'est autre que Sami Zayn. Mon crépus que Jericho sorte du public, et je pense que là c'était le cauchemar total pour pour Kevin Owens.
Ce soir, c'est ta soirée.
Alors évidemment, Kevin Owens au commentaire, c'est toujours un délice, hein, il s'en prend Byron Saxton, il s'en prend plein la tronche, il s'énerve hein, de la compétence générale, que ce soit les arbitres, les commentateurs, visiblement tout le monde est incompétent dans cette société. Et agacé par tout ça, il entreprend d'aller faire le boulot de l'arbitre parce qu'il n'est pas content de ce qui se passe. Et il entre en plein match, il pique le maillot de l'arbitre. Sami Zayn, qui était à ce moment-là sur le turnbuckle, n'en revient pas, mais c'est bien Kevin Owens qui lui demande d'aller au combat. Il commence à compter 1, 2, 3, 4 parce qu'il est sur le turnbuckle dans les cordes. Le rouquin va finir par s'exécuter, mais il se mange un pop-up powerbomb par Kevin Owens. Aiden English, il n'en faut pas plus, en profite. 1, 2, 3, alors plus vite que la musique, hein, le tombé là, Kevin Owens. Mesdames et messieurs, Kevin Owens. Alors que tu pensais de tout ça.
Bravo.
Kevin Owens, en tant qu'arbitre, est-ce qu'il fait mieux le boulot que les arbitres?
J'ai trouvé ça très bon comme segment. Après, moi, je suis pas objectif. Je suis un gros fan de Kevin Owens, dès qu'il parle, dès qu'il me catch aussi. Hein. Mais là, j'aime bien ça, cette position de heel, forcément, qui râle à l'injustice, hein, comme font souvent les heels lorsqu'ils perdent des matchs et qu'il y a quelqu'un qui est impliqué, comme était Shane McMahon la semaine dernière. Mais j'aime bien parce qu'il le fait pas. Il le fait un peu différemment des autres heels, un peu différemment du Miz et des de Ziggler ou autre. Hein. Il le fait avec un petit truc de genre presque on a envie d'avoir on a un peu pitié pour lui, on arrive à compatir un peu, en tout cas moi j'arrive à compatir avec lui, il fait des points assez intéressants et assez pertinents, du coup je trouve que ça marche, et j'ai trouvé bah, assez fort hein, dans sa phase de commentaire hein, comme souvent tu disais c'est un petit bonheur à chaque fois au commentaire, mais là il était bien d'entrée, il fait là, franchement, d'habitude, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui a beaucoup de choses à dire, mais là, je suis tellement dévasté par ce qui se passe que je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. La Byron qui dit un truc et de suite, ta gueule, Byron, ta gueule, tu vois pas que c'est pas le moment, là, je souffre, moi, j'ai mal. Je trouvais ça super bon et le fait qu'il aille dire, ok, j'en ai marre, les gens savent pas faire leur boulot, les arbitres savent pas faire leur boulot, je vais le faire à sa place et qu'il montre, qu'il enlève donc le polo d'arbitre à l'arbitre qui était sur scène. Pour le mettre, je trouvais ça mais d'un culot, d'un gonflé, et il avait pas du tout dans son attitude, il le faisait pas en faisant genre ah je suis un i, je suis un méchant, je vais faire une saloperie, non, il faisait le mec qui était légitimement saoulé et gavé par ce qui se passait, et t'avais l'impression vraiment qu'il était, qu'il croyait sincèrement ce qu'il disait, que l'arbitre faisait pas du bon boulot et que lui ferait du meilleur boulot. Évidemment derrière, voilà, hein, tu l'as dit, il intervient, il met son pop-up bombe, il compte un, deux, trois façon éclair. Je trouvais ça assez bien foutu. J'aurais presque préféré qu'à la fin, il fasse un pop-up power bomb aussi après le match sur Aiden English, histoire de mettre tout le monde au carré. Mais c'est pas plus mal qu'il le fasse pas, parce que sinon, ça aurait fait trop popper les gens. Il faut qu'il reste un heel. Donc, il aurait fait ça, il aurait eu trop le diva de la foule. Donc là aussi, ça aurait été une idée séduisante. Mais c'est encore une fois intelligent, je trouve, qu'il ne tombe pas dans ce petit piège-là pour rester effectivement un énorme connard tel qu'il a été sur le match, quoi. Donc,
Ouais, c'est vrai que Kevin Owens, il est tellement bon que enfin la limite pour enfin ils doivent tu sens hein, qu'il est enfin c'est vraiment la science du catch et de la gestion de la foule parce que il pourrait effectivement à tout moment en un claquement de doigts devenir enfin espèce de babe, enfin un face instantané donc
ouais, fait, je sais pas, mais en tout cas,
un
il est
vrai
tellement.
tweener qui
Ouais,
peut
c'est
faire
ça.
ce qu'il veut quand il veut et
C'est ça. Un peu un heel qui arrive à quand même être vachement applaudi. Il a été à un moment donné, hein, quand il est arrivé au main roster, quand il a clashé John Cena, justement autour de l'US Open Challenge à l'époque, il était très over avec la foule. Et donc du coup, il a un peu cette difficulté, comme on si par exemple Jericho dans un style, hein, quand ils sont heel, ils sont tellement appréciés par le public, par une partie du public, hein, que ce soit les smart ou généralement les hommes un peu plus adultes, que bah, c'est compliqué de pas se faire applaudir quand il fait des saloperies. Donc voilà, et c'est très intéressant. J'ai vu récemment, ils ont fait un DVD documentaire sur Kevin Owens, Fight Owens Fight, qui est très intéressant. Et notamment, on voit tout son run à la Ring of Honor, où il est devenu une sorte d'un peu de Stone Cold Steve Austin de la Ring of Honor, où il faisait tout ce qu'il voulait, n'importe quoi, des trucs complètement improbables et trash, mais il était quand même ultra favori de la foule, parce que les gens aimaient tellement ce qu'il faisait, la manière qu'il avait de le faire, que il pouvait pas se faire huer, ou alors fallait vraiment qu'il fasse des trucs, des grosses trahisons énormes pour se faire détester, quoi. Donc là, il marche un peu dans cette ligne-là WWE, et pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort vraiment, vraiment bien. En tout cas, moi, je suis toujours content de le voir à l'écran, et je suis un peu curieux de voir qu'est-ce que va être la suite, hein, parce que forcément, il va être écarté de cette US Title
Ah bah
Picture,
oui.
donc.
Oui, il y a un moment, il faut laisser, faut arrêter, monsieur. Il faut lâcher
C'est ça.
l'affaire. Non, bon,
Ouais.
effectivement, le programme, c'est un match avec la Michaine dans une cage, pas dans une cage, on ne sait pas trop. Là, c'est pareil, hein. Comme le baron, je le vois bien pendant quelques semaines un peu voilà se mêler de toutes les affaires un peu officielles de SmackDown, que ce soit prendre la place de l'arbitre ou alors aller sonner la cloche ou faire l'annonceur mieux que les autres, etc. etc.
Après, il y a deux choses, hein, c'est que il l'a dit dans sa promo, comme tu le racontais, il compare effectivement SmackDown avec Raw en disant que Raw est mieux et meilleur que Stephanie McMahon et meilleur commissionnaire que Shane. Et il a posté un tweet le jour de SmackDown, je crois. Il disait dans sa promo, hein, aussi, c'est que c'était le jour où il a gagné le titre universel, c'était il y a un an, à un ou deux jours près.
Et regardez
Donc,
où
du
j'en suis
coup, est-ce
aujourd'hui.
Ouais, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui nous teaserait peut-être? On parle éventuellement d'un espèce de Superstar Shake-Up post-SummerSlam. On n'a pas une nouvelle pour l'instant, ni à Raw cette semaine, ni à SmackDown. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça dans les tiroirs bientôt? Et est-ce qu'effectivement, ce ne serait pas le signe que Kevin Owens retourne à Raw, puisqu'il dit dans son tweet, j'ai pas oublié que j'avais un rematch pour mon titre universel.
Ah
Et
oui, effectivement.
donc,
Eh ben,
du coup.
c'est bien un des seuls qui n'oublie pas ses rematchs 6 mois
Ah
plus
non,
tard.
c'est clair.
Il
Je
y
le garde
tient.
bien en tête. Ouais, c'est clair.
Bon,
Et autre chose dans ce
ouais.
segment, j'ai entendu, je crois que c'est la première fois, du moins moi j'entendais, la nouveau theme song de Hayden English. Quand il gagne, on entend une musique qui n'est plus celle des voix de Villain, mais un truc
Ah
un peu.
oui, la vache,
Une
oui.
musique classique. Et j'ai fait, oh tiens, il y a une nouvelle musique. Bon, bah, ok.
Ouais, il a son theme song
Ouais.
de solitaire. Et
Ah ouais, j'avais pas
justement,
entendu, par
d'autres
contre.
solos, d'autres catcheurs solitaires, on va en parler. C'est une petite séquence là, un peu sans programme fixe, hein, puisque on a Bobby Roode qui débarque avec toute la fraîcheur du face, hein, puisque sa pop est toujours aussi énorme et qu'il affronte ce soir Mike Kanellis dans un match tout à fait passable, sans grand intérêt, si ce n'est que pendant tout le match, Bobby Roode va vraiment beaucoup interagir avec le public. Il kiffe, hein, tu vois qu'il a vraiment le sourire qui fait 3 fois le tour de la tête. On sent qu'il est à la fois content d'être là, ce qui est vrai, hein, parce que Bobby Roode, il a toujours rêvé d'être à la WWE, c'est un vrai accomplissement pour lui, et on sent qu'il jubile, hein, qu'il kiffe vraiment ce moment-là, mais vraiment de façon sincère. Mais en plus, tu rajoutes ça à vraiment une des interactions très face, hein, qu'il a avec le public, font que, avec en plus sa victoire, hein, évidemment, avec son glorieux DDT, dans un match, face à un heel de quelques minutes, qu'est-ce qui se passe avec Bobby Roode? Parce que autant la semaine dernière, on pouvait se dire, ouais, le mec arrive, ils savent qu'il va avoir une pop d'enfer, qu'on lui mette un heel ou un face, ça changera rien. Là, visiblement, le packaging, un peu le réalignement semble s'opérer.
Exactement, ouais, c'est ce qu'on voit, hein, puisque on dit ça en comparaison forcément avec son règne à NXT, où il était effectivement un top heel à NXT, où il jouait la partition, pour ceux qui suivaient pas, pour le faire très court, il jouait la partition du mec qui est en haut de la société, les 1%, ses amis, c'est les politiciens, les grands chefs d'entreprise, etc., et pas les spectateurs de catch, et qu'il allait redorer le blason d'NXT pour que ça soit un peu plus hype. Donc, du coup, il était genre, c'est mon NXT à moi, pas le vôtre, c'est le mien, donc il était très égomaniaque. Là, c'est pas du tout le cas depuis qu'on le voit depuis 2 semaines. Alors, deux solutions. Soit il nous rejoue un peu ce qu'ils avaient fait sur NXT, ou quand il est arrivé à NXT, il avait une grosse pop forcément, parce que c'est un gros nom du catch, hein, Bobby Roode. Et au bout de quelques semaines, qu'on a vu ce côté égomaniaque prendre dessus et devenir heel, alors que les premières fois il apparaissait, il faisait pas trop de promos, il surfait sur le viva de la foule, donc on pensait qu'il était face et qu'il a tourné heel dès qu'il a commencé à parler et dévoiler un peu sa philosophie. Ou alors, est-ce que vraiment ils le changent en face? Ça serait la première fois depuis un bon moment qu'ils font ça, puisque si on prend les anciens champions NXT, Sami Zayn, Kevin Owens, Finn Balor, Nakamura, tous ceux qui ils ont succédé, quand ils sont arrivés dans le main roster, ils ont gardé clairement leur gimmick et leur alignement face heel qu'ils avaient NXT. Ça serait le premier depuis longtemps qui change, qui garde son gimmick glorious, mais qui passe d'un clairement très heel à très face. Ça serait un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est pour compenser un manque de top face à SmackDown, surtout depuis le départ de John Cena, du moins pour l'instant du côté de Raw? Je sais pas, mais dans tous les cas, moi, mon ressenti, si c'est ça, je suis pas le plus joueuse du monde, parce que je trouve que le heel lui va mieux, hein, pour l'avoir vu à TNA, l'époque où je regardais TNA, il y avait Bobby Roode notamment et AJ Styles et Samoa Joe. Et j'ai vu Bobby Roode du côté face, du côté heel, et je l'apprécie vachement plus du côté heel, quoi. Il a vraiment, ça lui va mieux, je trouve, tout simplement. Là, rien que sa gestuelle plus face, un peu bondissante, etc., je trouve qu'elle est un peu, je sais pas,
Ouais, non, non,
moins cool.
il perd en saveur, hein. Effectivement, là, c'est assez générique comme comme comportement, vraiment, comme tu dis, hein, le body language voilà, déjà qu'il a un catch, de toute façon, il a un catch très classique en plus. Alors, c'est pas lui qui va
Oui.
soulever les foules parce que c'est un gentil face qui fait des acrobaties de dingue.
Non.
Bon, alors,
Non, par contre, c'est il a un gros star power, quoi.
Oui, il
Il
a un gros star
transpire le
power. Son
charisme,
theme
son.
song enfin, fait lever les foules.
C'est ça.
Donc, clairement, ça peut fonctionner en tant que face, mais c'est vrai que c'est tout de suite moins excitant. Lui qui, clairement, tenait vraiment un gimmick, un personnage quasiment parfait hein, de heel qui en plus à SmackDown, ok, on a. Là, effectivement, faudrait faire le plan comptable, quoi, mais entre ratio heel face, mais en tout cas, ce genre de gimmick heel peut manquer ou contribuerait vachement enfin, apporterait beaucoup à SmackDown, donc plutôt qu'un énième face, alors, en mettant de côté évidemment tout ce qu'on a dit, Star Power, etc. Mais bon, à voir, j'ose espérer que ton plan là, ton scénario A, qui est de au début il trip, etc., c'est normal, c'est aussi le côté égomaniaque, et puis après, voilà,
Exactement,
on
hein.
va reprendre.
C'est ce qu'ils ont fait peu ou prou à NXT quand il est arrivé,
Ouais.
et il y a des possibilités qu'ils fassent la même chose à SmackDown. Je pense peut-être qu'ils sont en train de tester, peut-être qu'ils sont en train de sonder le terrain, je sais pas. Bon, bref, on verra dans les semaines prochaines,
Alors
hein,
un
mais
autre qui teste le terrain, c'est Dolph Ziggler.
ouais.
Petite séquence backstage hein, qui nous annonce qu'il y aura du changement. Alors il shoot sur tout le roster, hein, c'est son nouveau gimmick là. Voilà, il shoot sur Finn Balor en disant qu'il va devoir se maquiller parce que voilà, on n'a pas de charisme, qu'il va devoir faire des mouvements de main débiles en mimant le You Can't See Me là, de John Cena. Ou alors qui venir accompagner d'une escorte, je crois, ou jouer de la guitare pour tout faire sauf catcher.
Faire un super-héros aussi, Zingman.
Ouais, Zigman, ouais, c'est ça, Zigman, ok. Vous voulez tous sauf du catch, quoi. Il nous tease qu'il nous montre, il nous révélera, là, on aura la grande révélation du nouveau Dolph Ziggler la semaine prochaine. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette séquence.
Non, si ce n'est qu'il avait déjà fait ça la semaine dernière,
Oui.
j'espère qu'ils vont mener l'idée au bout, qu'il va faire tout ça en même temps, en fait.
Bah ouais, c'est ce que je me disais. Quitte
Quitte
à
à
y
être
aller.
ridicule dans la promo, autant aller jusqu'au bout. Je sais pas où ils vont aller avec ça, mais autant aller jusqu'au bout. Voilà.
Ouais. Bon.
Mais c'est
Alors.
un peu inquiétant quand même, hein.
Ouais,
Ça.
ça. En fait, ça peut donner du très drôle comme du très naze, quoi. Donc,
C'est ça.
puis du très drôle, on en a déjà suffisamment. On en a
Ouais.
suffisamment, notamment grâce avec la Fashion Police. C'est la saison 2 qui commence. Season 2 Premiere, Back to Basics. Un nouveau générique, mais on revient effectivement aux racines hein, de la Fashion Police. Ils sont de retour dans leur commissariat de banlieue. L'enquête se recentre sur l'indice de la saison précédente. Souvenez-vous, pardon, le 2B qui avait été laissé comme indice. Plusieurs indices, justement. Plusieurs pièces à conviction ont été ramenées du laboratoire. Je crois qu'il y a une histoire de lab dont a parlé Tyler Breeze. Et c'est plusieurs objets qui commencent par la lettre B, si je dis pas de bêtises. On a le Black Light, la belt. Alors, c'est très drôle. Il monte une ceinture et l'autre, il dit « Ah, mais tu sais ce que c'est, ça? » Et il dit « Oui, c'est un championnat. » Enfin, une ceinture de championnat. Il fait «
C'est
Non,
un
non, c'est
title.
un title. » Il fait « Non, non, c'est une ceinture. C'est une simple ceinture, etc. Un bracelet d'amitié. » Il met le bracelet d'amitié et tout d'un coup.
Et ça c'est très drôle pour la ceinture, je fais me débarter, puisque effectivement, dans les éléments de langage WWE, Vince McMahon ne veut pas qu'on appelle les
Belt.
championnats belt, donc ceinture, mais titre. Et du coup, voilà, c'est petit clin d'œil hors du quatrième mur,
Ah
savoureux,
bah
petite panne.
complètement, la Fashion Police, ils sont connus pour ça. Ils ont évidemment en plus toujours leur tableau là avec tous des catcheurs dont les noms commencent par B ou même deux fois B, comme Brie Bella par exemple. Bref, on continue avec des flèches qui apparaissent sur des boîtes, des flèches mystérieuses qui se révèlent à l'utilisation de la fameuse lampe torche qui permet de révéler des flèches inscrites au jus de citron. Alors ils ont du mal à suivre les flèches parce qu'au début ça fait ça va à gauche à droite en haut à gauche à droite ça remonte. Alors du coup Fandango retourne la boîte et la flèche indique un nouveau message: to be or not to be. Alors là, il commence à cogiter, il dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est vachement shakespearien. Et tous ces indices, ils amènent finalement sur la piste de Hayden English. Voilà, la boucle est bouclée. La Castafiore semble être le suspect numéro 1 à faire, à suivre. Alors, cette saison 2, qu'as-tu pensé de ce season 2 premier?
Toujours pareil, très fun, c'est drôle. Je suis pas le plus grand client, le plus grand fan du comedy wrestling. J'étais assez, je trouvais ça assez insupportable aux années 2000 avec Santino Marella, etc. Et là, ils arrivent à me faire passer quelques minutes sympas dans SmackDown chaque semaine. Donc, même en pay-per-view, je trouve qu'ils font du très bon boulot avec ça. Donc, je sais pas encore une fois où ça va mener, mais en tous les cas, c'est agréable. Voilà, c'est agréable de voir ça. Donc,
Ouais,
toujours très
écoute,
content.
en tout cas, Division Tag Team qui reprend un peu du poil de la bête, notamment avec cette nouvelle équipe enfin formée pour l'occasion, Chad Gable et Shelton Benjamin, The Gold Standard. Il est de retour, il est quadra, mais il a toujours la forme. Ce soir, ils affrontent The Ascension. Alors, Gable, alors, c'est coupé par une énorme page de pub, évidemment, on ne voit pas tout le match. Ce qui est super, hein, ils nous avaient fait le coup la semaine dernière avec Bobby Roode. Alors, les mecs, ils font leur premier match et t'as la pub en plein milieu. Je crois même, c'est pire, je crois, le match a commencé pendant la pub. Enfin, c'était vraiment naze. Donc, le tag arrive hein, sur Shelton après toute une séquence avec Gable. Alors, c'est assez drôle, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais en fait, Shelton a vraiment, une fois qu'il a fait le tag, visiblement Gable attendait à ce qu'il fasse soit une prise à deux ou quelque chose comme ça. Et Shelton l'a un peu poussé, toi. Il a un peu poussé Gable, fait, hey, petit, hop, je te montre. Du coup, Gable s'est dit, ah, hein, qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'y reviendra pas plus que ça durant le match, mais c'est intéressant. Ça pose peut-être les bases d'une relation autre que simplement je suis ton plus grand fan. Il y a côté un peu ju senior junior qui va peut-être se mettre en place. Donc, l'ancien champion intercontinental nettoie un peu la place. Gable reprend un peu plus tard en mode face en péril hein, face aux deux Golgoth. Hot tag à nouveau sur Shelton Benjamin. Qui est encore un peu en décrassage, hein. Il a toujours la forme, mais voilà, c'est plus aussi smooth qu'à l'époque. Mais il a l'énergie et ça suffit, quoi. Hein. Et donc le finish hein, de Shelton Benjamin sur Victor ou Connor, on s'en fout. Et donc la célébration de Chad Gable et de son nouveau mentor, hein, Shelton Benjamin. Alors qu'as-tu pensé de ce retour de Benjamin à
Alors
SmackDown?
bah c'est ça fait des années hein, que c'est qui fait partie des noms qui sont murmurés des anciens de la WWE et qu'on attend un retour. Ça fait, je sais pas, 5 ans, 6 ans où régulièrement le nom Shelton Benjamin revient dans ces discussions. Donc c'est cool de le revoir. Il remplit bien le vide qui avait été laissé par Jason Jordan qui est parti à Raw donc pour faire cette équipe avec Chad Gable. Hein, donc je sais pas s'ils leur donneront un nom à un moment donné. Ce sera intéressant. Après toujours pareil, faut voir ce qu'ils vont en faire. Donc le mec effectivement tu le dis il a plus vers les 40 ans maintenant donc il est moins explosif dynamique que peut-être avant mais il reste ultra athlétique hein. Le mec n'a pas arrêté de catcher même s'il était plus à la WWE. C'est un gars qui a gagné énormément de titres hein. Il a été comme tu disais ex-champion intercontinental, ex-champion des États-Unis, ex-champion par équipe, il a tout gagné à part le titre suprême. Ça a toujours été un peu son problème, hein, c'est qu'il n'a jamais arrivé à percer le plafond de la main card, même s'il avait été de nombreuses fois dans des matchs Money in the Bank, il n'a jamais réussi à toucher l'échelle et etc. Enfin, toucher la mallette.
L'échelle, il arrivait
Donc,
à la toucher, quoi.
ouais, l'échelle. Plein de fois, mais la mallette jamais. Donc voilà, est-ce que il vient pour refaire un run qui va être comme avant, rester en mid-card, top mid-card, ou est-ce qu'ils vont avoir plus de projets pour lui? On verra dans tous les cas. Bon, bah, c'est quelqu'un qui, dans ring, est très bon, et on l'a vu ce soir-là. Maintenant, moi, ce qui m'avait dérangé à l'époque où il était à WWE, c'est un peu le manque d'assurance niveau promo. Donc peut-être qu'il s'est amélioré sur ce côté-là. On n'a pas eu trop l'occasion d'entendre parler pour l'instant. Donc à suivre.
Voilà. Nous ne présumerons de rien, mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien la division tag team, tout ce beau monde. Le meilleur pour la fin, c'est New Day contre les Uso, avec une stipulation à la clé, parce qu'on se dit putain, encore un match, c'est pas pour le titre. Non, 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 ils l'auront un peu plus tard, leur rematch. Je ne sais plus si c'est pour le prochain pay-per-view, si c'est avant. Probablement au pay-per-view. Donc, les New Day affrontent les Uso, et la stipu, c'est que le gagnant du match, justement, choisira la stipu du prochain match, pas celle du match qu'ils sont en train de faire. Hein. puisque c'est déjà la stipule, c'est déjà ça. Il faut réussir à suivre. Alors, aux commandes du match, eh ben, Kofi Kingston et Biggie, puisque visiblement Xavier Woods est blessé. Est blessé.
Oui.
Voilà, le match commence. Biggie est un peu isolé, voilà, parce que c'est comme la force brute de cette équipe. Kofi Kingston lui assure un petit peu l'explosivité de la rencontre. Mais une fois qu'on arrive à la fin, c'est les Ouzo qui sont les plus malins, puisque suite à un blind tag, Kofi Kingston se fait surprendre par un roll-up, et ce sont donc les Ouzo qui remportent ce match et qui donc pourront choisir la stipulation qui pourra leur permettre un petit peu de verrouiller hein, cette ceinture autour de leur hanche. Qu'est-ce que tu penses un petit peu là de cette longue rivalité entre les deux et de cette stipulation et puis du match?
Le match, bah, c'est assez sommaire, bonne facture. Hein. Les deux équipes sont bons dans le ring. Moi, j'aime beaucoup les Ouzo dans ce packaging illesque qu'ils ont depuis quelques temps maintenant. Je trouve beaucoup plus intéressant qu'avant, donc c'était le bon choix. Les New Day sont toujours over avec la foule, donc c'est une belle opposition. Heel face, pas de problème. Après, sur la rivalité, bon, c'est logique actuellement. Il y a un pay-per-view bientôt. Faut bien les mettre quelque part. De toute façon, c'est le rematch. Donc de base, on sait qu'il va avoir lieu. On va nous mettre une stipulation dans les pattes. Qu'est-ce que ça peut être? Quelle stipulation peut être intéressante, franchement, entre les deux? Les Ouzo, vu qu'ils sont deux et les autres sont trois, ils ont aucun intérêt à choisir une stipulation qui est sans disqualification. Parce que sinon, c'est à leur désavantage. Même si Xavier Woods est blessé, il s'est blessé en house show. Ça ferait quand même au détriment. Donc, quelle stipulation peut bien être intéressante pour les Ouzo? Peut-être que ça soit la stipulation. Je sais pas si c'est possible, mais que justement, il soit que deux New Day dans le ring et que le troisième soit banni du ringside, banni du machin. Ça serait la plus logique pour gagner. Après,
ça, on y avait pensé. Justement, c'est quelque chose dont on avait parlé il y a quelques semaines, justement, où ils pouvaient à un moment donné faire valoir le fait que les New Day, ils sont gentils, c'est les champions, mais ils sont trois, quoi. Et nous, on est toujours deux. Et c'est vrai qu'avec cette blessure de Xavier Woods, du coup, c'est un peu plus délicat à gérer. Ou alors, ils peuvent choisir les deux sur les trois et ils obligent Xavier Woods à monter sur le ring pour peut-être, mettre tout à leur avantage.
Ouais.
On ne sait pas, tout est possible. Après, mais les heels qui choisissent des stipulations à leur avantage, ça n'arrive pas souvent. Souvent, ils ne font pas forcément preuve de grande stratégie ou de grande intelligence.
Généralement, ils vont prendre des trucs sans disqualification. Mais là, comme je le disais, ça serait au désavantage des Ouzo qui sont deux face à trois New Day. Donc, du coup, ça renverse un peu la situation. Après, voilà, je pense que c'était quand même indispensable. Bon,
on arrive vraiment un peu à court d'idées hein, dans cette rivalité.
C'est ça.
Effectivement, l'échange des ceintures a un petit peu rallongé, peut-être un peu trop artificiellement, une rivalité qui est quand même une des meilleures rivalités dans la division tag team. Hein, donc,
c'est vrai. Il n'y a pas grand monde de manière de très logique ou évident pour prendre le relais. Peut-être Shane Gable et Shane Benjamin, mais il faut encore quelques semaines pour les installer. Et ils se murmurent dans les théories qu'en fait, la WWE voudrait mettre un nouveau record au diapason des New Day qui ont le record de longévité tag team et celui de l'équipe qui a gagné le plus de titres, et ça serait pour ça qu'ils les ont fait perdre. Et donc du coup ils aimeraient c'est une théorie hein, qui est étayée par que dalle hein, mais peut-être faire gagner plein de titres pour pouvoir battre le record qui a je sais pas combien d'ailleurs hein, mais bon
déjà qu'ils nous font ça à Raw avec la division féminine, alors faut qu'ils fassent attention hein, avec tous ces changements là de titres, de ceintures. On a même plus le temps d'apprécier nos chouchous qui gagnent la ceinture et une semaine plus tard ils la reperdent. C'est un peu contre-productif tout ça. C'est bien de créer la surprise, c'est bien de nous surprendre hein, parce qu'on a été beaucoup surpris à SummerSlam dans certains résultats, mais malheureusement on voit que le finalement, on se passe là, c'est la patate chaude dans beaucoup de divisions là. Cette histoire de ceinture, il est temps un petit peu, je pense, de reverrouiller certaines ceintures autour de certaines hanches et pas forcément autour des hanches de ceux qui sont pas là dans les weekly quoi. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, Ouzo versus New Day, c'est la garantie et contrôle qualité. Donc on va pas se plaindre à ce niveau-là. C'en est fini pour la division tag team. Alors, on va passer à une autre division qui est peut-être un peu moins réjouissante, puisque c'est la division féminine. On a backstage une séquence où James Ellsworth demande à Carmella si elle a bien reçu ses fleurs, pour s'excuser justement d'avoir trop ouvert sa gueule sans menton la semaine dernière, on se souvient qu'il avait un petit peu éventé le plan qu'avait Carmella pour pouvoir cash-in sur sa mallette sur Natalia lors d'un tag team match. Des fleurs qui visiblement ont été volées lors d'un enterrement, c'est pas bien de faire ça. Natalia justement débarque avec son nouveau t-shirt avec un chat avec des yeux qui lance des lasers. Donc peut-être un nouveau gimmick de hipster, je ne sais pas. Elle annonce un match. Alors, c'est pareil, c'est assez tordu. Visiblement, il y a un match la semaine prochaine entre Carmella et Natalia. Je ne sais pas si c'est pour le titre. Est-ce pour le titre?
Non, je pense pas, non.
Non,
Non,
je pense
non.
pas non plus. C'est vrai
C'était
que
pas annoncé.
ce serait encore plus con, mais il en serait
Bah
capable, mais c'est pas ça. Et là, Naomi débarque. Salut les copains. Alors elle a jamais. Enfin, c'est terrible, Naomi, genre, quand elle a pas la ceinture, ça va à peu près, quoi. Ses promos et son entrain. Mais bref, elle débarque pour annoncer un match, justement, dans 2 semaines. Le rematch pour la ceinture dans 2 semaines. Miaou, miaou. Bon, voilà. Rien à signaler, mon capitaine.
Non.
Mon amiral.
Que dalle.
Bon, une autre séquence difficile, voire encore plus difficile, c'est un match entre Tamina et Noname, puisque Lana a repris sa parure de manager. Lana gueule donc des ordres au micro. Alors, à la différence de l'époque où elle était manager de Rousseff, cette fois-ci, elle gueule, elle a le micro pour gueuler. Donc c'est un petit peu insupportable. Donc Tamina essaie de nous faire croire qu'elle s'est catchée, mais l'illusion ne dure pas très longtemps. Malgré sa victoire hein, expéditive sur la Nonem, elle arrive quand même à tuer son adversaire en la poussant hors du ring. Elle s'est mangée la corde façon Enzo Amore là dans les grands jours. Donc c'était assez violent. Est-ce que ça te parle toi cette story entre Tamina et
Pas
Lana.
du tout, pas du tout. Je trouve que pour Lana, bah, du coup, c'est une baisse par rapport à avant, puisqu'on les avait essayé de la faire catcher. Elle avait même eu, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, des title shots contre Naomi, même en pay-per-view. Je pense qu'elle n'a pas convaincu. Là, ils la font revenir dans un rôle de manageuse, le même qu'elle avait avec Rousseff. Hein, elle a les mêmes gimmicks, Tamina Crush, etc. Donc je trouve que c'est dommage et ça a moins de sens de lui faire ça avec Tamina qu'avec Rousseff. Et puis Tamina, moi j'ai du mal quoi, j'accroche pas du tout. Là
Ah
la
non,
pauvre,
c'est terrible.
la pauvre Nana qui s'est fait... À un moment donné, à la fin du match, Tamina, elle chope donc son adversaire du soir et l'éjecte du ring. Et il
Oui.
y a une incompréhension et la nana se prend la corde du bas dans la gueule. Heureusement, c'était pas très vite et très fort, mais moi, ça m'a rappelé le botch entre Simon Gotch et Vaudevillain et Enzo Amore qui a fait une commotion
Mais
cérébrale
Amiral,
à
c'est
Enzo Amore.
exactement ce que j'ai dit il y a 2 minutes, hein, tu m'écoutes
Voilà.
pas.
Non, mais je répondais au chat en même temps, c'est pour ça. Oh, j'espère
Ah,
rester avec
d'accord, social manager.
Exactement.
Effectivement, putain, mais qu'est-ce que tu racontes sur le chat là? Mais vas-y, le mec il fait ses petites discussions parallèles.
Eh oui. Donc du coup, c'est pour dire à quel point ce segment m'intéressait, quoi. C'est même si
Non,
t'en parles et t'en parles en 2 minutes,
oui,
j'étais ouais. Non, non c'est chiant, Tamina, ça marche pas, quoi. C'est
là. Ouais, non, non.
horrible. Ils vont faire le même traitement qu'ils ont fait avec Nia Jax à Raw, lui faire squasher des no-names pendant des semaines pour. Oh, regardez, elle est
Ah,
quand même
putain.
balèze, mais. Quand on la met en face d'une Charlotte ou d'une Natalya, bah, il n'y a rien dans le ring, quoi. Rien
Ah, c'est
d'intéressant, à
terrible.
part un Samoan Drop et un Superfly, un Snuka Splash, machin. Enfin, c'est. Il n'y a que dalle. Et c'est pas Lana au micro qui va arranger quoi que ce soit. Hein.
Non, non, c'est assez désolant. Bon, le main event. C'est l'heure du fameux main event dont on vous a parlé en début d'épisode. Ce soir, c'est le tag team match entre donc Rusev et Mahal versus Orton Nakamura. Un peu plus tôt, on a une petite séquence backstage presque touchante entre Jinder Mahal et Rusev. Où Jinder Mahal, voilà, lui dit, écoute, mon ami, mon frère, voilà, on va s'épauler, etc. Et Rusev lui dit, écoute, je suis pas ton ami. Moi, on fait ce match ce soir. Et puis après, moi, cette direction, le title shot, je vais te prendre ta ceinture. Et Jinder Mahal, voilà, a l'air presque ok avec ça. C'est assez marrant. D'autant plus si on se souvient que, effectivement, avant que Rousseff ne se blesse, hein, ils étaient un peu potes, les deux. En tout cas, ils étaient liés par leur méchanceté. Donc, c'est voilà, une équipe assez intéressante à suivre dans une mélasse un peu d'histoire, pas forcément très intéressante. Bref. On a le match de notre main event. Les heels hein, qui vont isoler Nakamura assez tôt dans le match pour éviter qu'Orton ne puisse vraiment intervenir. Le tag est fait sur la vipère qui bah voilà en balance dans tous les sens. Les Singh Brothers tentent comme à leur habitude d'intervenir. Ils y parviennent tant bien que mal. Un peu plus tard, on a un horrible botch de DDT là depuis les cordes. T'as Randy Orton qui s'est déplacé son DDT depuis les cordes. Jinder,
oh là là.
Mais Jinder, c'est bizarre ce qu'il fait. Il descend des cordes de lui-même. Et puis Orton, du coup, il comprend pas trop ce qui se passe et du coup, il lui fait son DDT depuis les cordes, mais pas depuis les cordes. C'est assez étrange. Toujours est-il que le match donc monte un petit peu la crescendo et Nakamura finit par pouvoir placer son Kinshasa sur Rusev. Victoire pour les Face. Après le match, on a une célébration. Entre donc avec Nakamura et Randy Orton. Nakamura, voilà, il est face caméra, il est content, etc. Puis on voit Randy Orton qui l'observe, quoi. Il l'observe et puis il lui susurre des mots doux à l'oreille, visiblement. Nakamura, il fait oui, je sais pas s'il comprend tout. Et l'inévitable se produit, hein. On sent un peu quand même l'instinct du prédateur revenir. RKO from out of nowhere de Orton sur Nakamura. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Il faut donc vous dire, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est la meilleure occasion de le dire, c'est que la semaine prochaine, on a un match, justement, entre Nakamura et Randy Orton. Randy Orton, il ne distribue pas des RKO comme ça, juste pour le plaisir. Non, non, non. Il a toujours un plan. Et là, il a envoyé un message aux Japonais. La semaine prochaine, c'est lui qui va avoir un title shot pour Jinder Mahal. Je ne sais pas si ça nous enthousiasme plus que ça. Qu'as-tu pensé, toi, de ce match et de ce petit RKO là ?
Le match, bon, rien de fabuleux, j'ai trouvé. Le botch entre Mahal et Orton était juste incroyable. Moi, je sais pas, au début, j'étais pas celui qui détestait le plus que Mahal soit champion. Je comprends le côté business qu'ils ont en intérêt avec l'Inde.
Il fait du bon boulot, toi, avec ce qu'il a.
Attends, à SummerSlam, son match était pourri.
Oui,
il a fait du botch. Là, ce soir, il refait du botch. Je trouve qu'en promo, ce soir, il a été mauvais, alors que des fois, il était moyen. Là, il était vraiment, vraiment naze. Les Singh Brothers, pareil, en promo, ils étaient horribles. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils présentent. Donc là, je commence à trouver vraiment le temps très long.
Ça, c'est vrai.
Et le problème, c'est que, que ce soit Orton ou Nakamura qui reprennent le titre, actuellement, il n'y a rien qui me fait vibrer, quoi.
Ouais, c'est surtout ça qui fait chier. C'est qu'on met Orton. Enfin, on nous refoue Orton dans la title picture. En tout cas, on nous tease la possibilité.
Ouais. Bah, je pense que c'est Nakamura qui va gagner la semaine prochaine. Je mettrai mon billet dessus. Mais oui. Bon, encore une fois, on revient au problème du booking de Nakamura en main roster à SmackDown qui marche pas. Alors, ça marche à le public parce que le public est toujours à fond, il est toujours over. Hein, ça, c'est pas un problème. Et si on dépasse le côté juste sensation et son côté charismatique et un peu explosif dans le ring et son team song, bah, ça manque d'une. D'écriture, en fait, tout simplement, quoi.
Ouais,
donc c'est très feignant ce qu'ils font avec lui, c'est très feignant, quoi. C'est voilà, il met dans le ring, il fait ses mouvements, il met son Kinshasa et ses pliés, les gens sont contents, ils applaudissent, tout le monde rentre chez soi content, mais au final, en termes d'intérêt, de storyline, de construction ou autre, c'est très pauvre. Donc je vois pas grand chose actuellement qui. J'ai presque envie de dire, mais encore une fois, je suis pas objectif, mais que putain, qu'il fasse un truc avec Kevin Owens, je sais pas, quoi, pour remettre un peu de peps dans cette title picture, parce que là ça manque, quoi.
Ouais, bon, il y a même si on va jusqu'à Kevin Owens, qui est déjà un beau programme, mais
ouais.
nous construire un babyface, le babyface de demain, quoi, qui ira déloger cette ordure de Jinder Mahal, c'est ça qui est incompréhensible. C'est qu'on a quand même une histoire, c'est bien beau de nous faire des surprises, c'est bien beau de nous mettre du star power, mais là on a une histoire, on a un méchant qui est créé pour un babyface qui n'est pas encore un top babyface, mais qu'il deviendrait à coup sûr, en tout cas, qui aurait son nom gravé comme étant celui qui allait
Peut-être Bobby Roode. comme on disait, s'ils veulent conserver le côté face, bah, c'est le bon truc. Mais je pense que ça va être, enfin, je pense c'est que ça va être Nakamura, moi. Je pense que Nakamura, prochain, il va gagner la semaine prochaine contre Orton et au prochain pay-per-view, il prend la ceinture.
Hein. Ouais, mais tu vois pas, au final, ils nous auront vraiment raconté deux fois la même histoire, hein, donc.
Ouais. Ouais. Alors, c'est pas comme si ça allait déranger, hein. C'est pas la première
non,
fois qu'il fait ça.
Non, non. Après, on a la possibilité. Ouais, Randy Orton, Nakamura, quelque chose qui se dessine un peu entre les deux, qui aurait pas besoin de la ceinture. Moi, j'avais un peu espéré que Rusev, enfin, la team de Rusev gagne et que du coup, Rusev s'incruste dans le match pour le title shot. On aurait un triple threat.
Ceci dit, il le dit, hein, dans sa promo backstage, c'est mon backstage mal. Si je suis une habitude à la WWE, c'est pour ce titre, hein. Donc, du coup, voilà. Il réaffirme son intention. Alors après, peut-être qu'il n'y arrivera jamais, mais.
Non, parce que ça fait 6 mois qu'il nous le dit, mais.
Ouais.
Après, c'est pas lui qui book les matchs, hein. Tout le monde n'est pas John Cena. Mais bon, voilà. Bon, écoute, on verra déjà au moins ce qui se passera la semaine prochaine. En attendant, c'est l'heure du mot de la fin. Amiral, si tu veux bien nous partager, nous dévoiler ton top, ton flop et ta note pour l'épisode de cette semaine, s'il te plaît.
Yes, hein. Eh ben, le top, ça va être le segment avec Kevin Owens, hein. J'en parlais, j'ai pas revenir trop dessus, mais ce côté reprendre l'arbitre, c'était drôle, c'était original, c'était fun, c'était très très bien. Comment il arrive à rester toujours intéressant, même s'il est pas, au cœur de l'action, je trouve ça vraiment, vraiment bien écrit, bien joué, donc bravo. Mon flop, Tamina et Lana, on s'en fout, quoi, arrêtez, hein. Vivement que Charlotte revienne, d'ailleurs, elle est revenue en show parce qu'elle était hors du ring pendant un moment vu les problèmes de santé de son père Ric Flair. Là elle est revenue dans les shows, donc on va certainement la revoir la semaine prochaine, la semaine d'après, donc vivement qu'elle revienne et peut-être vivement qu'Asuka arrive. Ma note, eh ben 2, hein. Plus que moyen, enfin moins que moyen, voilà, il y avait pas, c'était pas scandaleux, mais ça manquait de quelque chose, ça manquait d'un truc un peu intéressant, un peu sympa, un peu original pour en faire un épisode cool, donc voilà.
Eh ben écoute, j'avais à la base le même top et le même flop, du coup je vais le donner, je vais le donner à d'autres, comme ça histoire de voir les bons points. Du coup mon top, eh ben je vais le donner à Tag Dillinger, qui en 2 minutes, à 3 minutes qu'on lui a donné, a donné tout ce qu'il avait, et c'est important, on le rappelle suffisamment assez sur ses ondes, que c'est pas parce que t'as que 3 minutes toutes les 2 semaines que tu dois pas les vivre à fond. Donc voilà, bravo Ty. Et pour mon flop, et ben écoute, je vais le donner à Jinder Mahal là pour ce botch sur le DDT là, c'est pas possible. En plus, il a même pas réussi, ils ont pas réussi. Ça c'est aussi la faute d'Orton, hein, les deux, fallait qu'ils trouvent quelque chose. Et la solution qu'ils ont trouvé de le refaire mais pas depuis les cordes était assez assez naze, quoi. Donc bon, un gros flop sur Jinder Mahal pour avoir réussi à botcher genre la prise que tu vois à chaque match de Randy Orton, tu sais qu'elle arrive. Il était bien installé en plus, j'ai pas compris.
Ah oui, c'est lui qui tombait, lui qui tombait des cordes, quoi.
Il est descendu, il fait attends, je refais mon lacet. What the fuck, mec, tu fais pas ça. Et ma note, c'est un 2,5. Hein. C'était voilà. Il y avait quand même du très très bon, mais il y avait du très mauvais. Alors du coup, voilà, tu sors de tout ça, pas plus excité qu'avant, mais bon, c'était pas une purge non plus.
Non.
Catch up, c'est votre podcast, hein, qui toutes les semaines analyse pour vous et avec vous les shows de la WWE, Raw, SmackDown, les pay-per-view, NXT, en veux-tu, en voilà. Pour nous suivre, iTunes, PodCloud, pour nous suivre en vidéo, c'est youtube.com/catchupcdc, Twitter, Facebook, catchupcdc, lescahiersducatch.com et le forum, commentez, partagez, notez, poussez, n'hésitez pas à partager, justement, à nous donner votre top, votre flop et votre note, hein, pour cet épisode là dans les commentaires juste en dessous de la vidéo pour ceux qui nous regardent, et pour ceux qui nous écoutent, bah venez voir la vidéo et balancez vos commentaires juste en dessous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec l'amiral, toujours là, toujours présent.
Bah oui, je pense que la prochaine sera encore là, et je fais un petit salut à Richard et Wrestling Network France qui ont interagi sur le chat durant ce live, donc merci à vous.
Bien les gars, pendant la pause déj, voilà, voilà. Pendant la pause déj, tu vas te chercher un petit picard, un petit plat picard, et puis bah tu viens écouter Catch Up, c'est pas compliqué quand même, non?
Bah non.
C'est pas compliqué. Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine, salut!
Salut.
Et coupé. J'ai du mal à trouver le curseur, mais c'est bon.
Cool.
Génial. Bien, et eh ben super, du bon boulot, amiral.
Bon bah c'était tout simple, hein. Ouais. J'espère que ça va être la semaine prochaine un peu plus
Un
peu
percutant.
plus feu-feu, ouais.
Ouais, c'est vrai que ça manque de folie tout ça.
Il est quand le prochain PPV SmackDown
Ouh,
déjà?
je crois que c'est tout
C'est.
début octobre.
Ah, c'est Hell in a Cell.
Peut-être le 9 ou un truc du genre. Entre-temps, on va avoir celui de Raw, No
Ouais,
Mercy.
non merci. Qui était un pay-per-view SmackDown l'année dernière, donc du coup, j'avais pas pris
Oui,
l'info logique.
visiblement, ils auraient interverti, toi.
Ouais.
C'est année A, année B, quoi. C'est comme semaine A, semaine B. Là,
Ah,
c'est.
alors, remarque, c'est pas trop con parce que du coup, ça veut dire que c'est un pay-per-view assez marquant, comme je pense surtout à TLC ou à Money in the Bank, ça reste pas toujours dans la même brand, quoi. Ça, c'est
Exactement. Exactement. On trouvait ça un peu
pas mal.
étrange que une brand récupère tout. Enfin, SmackDown avait tiré le gros lot un peu avec les pay-per-view monobrand
À thème, ouais.
là. Donc
C'est clair.
bon bah voilà,
Bon.
chacun son tour. Bon allez, je te
C'est
laisse.
ça. Ça marche.
À plus,
Bah,
Sonal.
à bientôt.
Salut.
Ciao.